7. Todd Schneider, affable, est au bureau.
On annonce une belle tempête par chez vous, monsieur Hodges.
Il paraît.
Votre chasse aux consoles défectueuses porte ses fruits ?
C'est précisément la raison de mon appel. Auriez-vous conservé l'adresse de livraison de cette grosse commande de Zapid Commander ?
Oui, bien sûr. Puis-je vous rappeler quand je l'aurai retrouvée ?
Ça vous dérange si je patiente ? C'est assez urgent.
Une affaire de droit des consommateurs urgente ?
Schneider a l'air perplexe.
Voilà qui ferait presque anti-américain. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Un clic et Hodges est mis en attente, avec un ruissellement de cordes apaisantes qui n'ont rien d'apaisant.
Holly et Jérôme sont tous les deux là, agglutinés à son bureau. Hodges se domine pour ne pas porter la main à son flanc. Les secondes s'étirent et se changent en minutes. Une, puis deux. Hodges se dit, soit il est en train de répondre à un autre appel et m'a oublié, soit il ne la trouve pas. La musique d'attente disparaît.
« Monsieur Hodges, vous êtes toujours là ?»«
Oui, toujours. »«
J'ai l'adresse. C'est Games Unlimited. Games avec un Z, vous vous souvenez ?»« Au 442 Maritime Drive, à l'attention de Madame Frederica Linklater. Ça peut vous aider ?»«
Absolument. Je vous remercie, Monsieur Schneider. »
Il raccroche et regarde ses deux associés. L'une mince et d'une blancheur hivernale, l'autre noire et baraquée par son travail de manœuvre en Arizona. Avec sa fille Ali, qui vit maintenant à l'autre bout du pays, ce sont les deux êtres qu'il aime le plus en cette extrémité de sa vie.
Il leur dit « On est partis, les enfants. »
8. Brady quitte la Nationale 79 pour tourner sur Vale Road, au niveau du garage Thurston, où plusieurs jeunes gars du pays employés au déneigement sont en train de faire le plein de leur camion, de charger du sable salé ou juste de boire un café en bavardant. Il traverse l'esprit de Brady de s'arrêter, voir si on peut lui monter des pneus cloutés sur la Malibu de Biblial, mais vu la foule que la tempête a attirée au garage, ça risque de lui prendre toute l'après-midi. Il est près de sa destination maintenant, et il décide de foncer. Et s'il reste coincé par la neige une fois là-haut, qu'est-ce qu'il en a à foutre ?
Rien.
Il est déjà venu deux fois au camp, surtout pour examiner les lieux. Mais la deuxième fois, il a aussi stocké des provisions. Il y a bien 6 cm de neige sur Vale Road et la chaussée est glissante. La Malibu dérape plusieurs fois et manque même partir dans le fossé. Brady transpire abondamment et les doigts arthritiques de Babineau palpitent, refermés sur le volant dans une étreinte mortelle. Enfin, il aperçoit les grands poteaux rouges qui constituent son ultime repère. Il pompe sur le frein et amorce le virage au pas. Sur les 3 derniers kilomètres, c'est une piste forestière sans nom et à voie unique, mais sous la voûte des arbres, la conduite est plus facile qu'au cours de toute leur écoulée. Par endroits, la piste est encore dégagée. Ça ne durera pas quand le plus fort de la tempête sera là, ce qui est prévu aux alentours de 20 heures, d'après la radio. Il atteint un embranchement où des flèches en bois clouées à un énorme sapin centenaire indiquent des directions opposées. Celle de droite indique « Camp de l'ours du Grand Bob », celle de gauche « Têtes et peaux ». À 3 mètres environ au-dessus des flèches déjà recouvertes d'un petit capuchon de neige, une caméra de sécurité filme en plongée. Brady tourne à gauche et relâche enfin son étreinte sur le volant. Il y est presque.
9.
En ville, la neige est encore légère. Les rues sont dégagées et la circulation fluide. Mais par prudence, tous trois grimpent dans la Jeep Wrangler de Jérôme. Le 442 Maritime Drive est l'une de ces copropriétés qui ont poussé comme des champignons sur la rive sud du lac dans les entreprenantes années 80. À cette époque, on se les arrachait. Aujourd'hui, la moitié des appartements sont vides. Dans le hall d'entrée, Jérôme repère F. Linklater au 6A. Il tend la main pour sonner, mais Hodges l'arrête avant qu'il ait pressé le bouton. «
Quoi ?» demande Jérôme.
Holly lui répond d'un ton faussement guindé.
« Observe et prends-en de la graine, Jérôme. Vise le style. »
Hodges appuie sur d'autres boutons au hasard, et au 4e essai, une voix masculine lui répond.
« Ouais ?»«
FedEx !» annonce Hodges.
Qui peut bien m'envoyer un colis par FedEx ?
Le type a l'air stupéfait.
Peux pas vous dire, l'ami. C'est pas moi qui rédige les nouvelles. Je les transmets juste.
La porte du vestibule se déverrouille en renâclant. Hodges la pousse, passe et la tient ouverte pour les autres. Il y a deux ascenseurs, mais une affichette en panne est scotchée sur l'un d'eux. Sur l'autre, quelqu'un a laissé un message. À celui ou celle qui a le chien qui aboie au quatrième, je te trouverai.
Légèrement menaçant, dit Jérôme.
La porte de l'ascenseur s'ouvre et il monte. Holly se met à fouiller dans son sac. Elle sort sa boîte de Nicorette et en glisse une dans sa bouche. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre au sixième, Hodges leur dit
« Si elle est là, laissez-moi parler. »
Le 6A est juste en face de l'ascenseur. Hodges frappe. En l'absence de réponse, il frappe plus fort. Toujours rien. Alors il cogne avec le poing.
« Va-t'en !»
La voix de l'autre côté de la porte paraît faible et fragile. Une voix de petite fille qui a la grippe, se dit Hodges. Il frappe encore.
« Ouvrez, Madame Linklater !»«
Vous êtes de la police ?»
Il pourrait répondre oui. Ce ne serait pas la première fois depuis qu'il a pris sa retraite qu'il se fait passer pour un officier de police en service. Mais son instinct, cette fois, lui dit de ne pas le faire.
« Non, je m'appelle Bill Hodges. Nous nous sommes déjà rencontrés, brièvement, en 2010, à l'époque où vous travailliez à... »«
Ouais, je me souviens. »
Un verrou tourne, puis un autre. Une chaîne tombe. La porte s'ouvre et la senteur aromatique de l'herbe dérive dans le couloir. La femme qui leur fait face tient un gros joint à demi-fumé entre deux doigts de la main gauche. Elle est d'une maigreur à la limite de la cachexie et blanche comme un linge. Elle porte un débardeur avec marqué en anglais « La caution des mauvais garçons » sur le devant et le slogan « En prison, nous cautionnons » en dessous. Plus difficile à lire, à cause de la tache de sang.
« J'aurais dû vous appeler, »
dit Freddy. Et elle a beau regarder Hodges en disant ça, il a le sentiment qu'elle se parle plutôt à elle-même.
« Je l'aurais fait si j'y avais pensé. Vous l'avez déjà arrêté une fois, hein ?»«
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demande Jérôme.
« Oh, j'ai embarqué trop de fringues. »
Freddy désigne de la main deux valises dépareillées posées verticalement derrière elle dans le couloir.
« J'aurais dû écouter ma mère. Voyager léger, qu'elle disait. »«
Je ne crois pas qu'il parle des valises, »
dit Hodges en désignant du doigt le sang tout frais sur le t-shirt de Freddy. Il entre, Jérôme et Holly sur les talons. Holly ferme la porte.
« Je sais de quoi il parle, » dit Freddy. « Le salopard m'a tiré dessus. » J'ai recommencé à saigner en apportant les valises ici depuis ma chambre.
« Laissez-moi regarder, » dit Hodges.
Mais quand il s'avance vers elle, Freddy fait un pas en arrière et croise les bras devant elle dans un geste à la Holly qui aimait profondément Hodges.
« Non, j'ai pas mis de soutif. Ça fait trop mal. »
Holly passe devant Hodges.
« Montrez-moi où est la salle de bain. Je vais regarder. »
Sa voix paraît naturelle à Hodges, calme, même si elle mastique à mort son chewing-gum à la nicotine. Freddy saisit Holly par le poignet et l'entraîne au-delà des valises, s'arrêtant une seconde en chemin pour tirer sur son joint. Elle parle en exhalant une série de signaux de fumée.
« L'équipement informatique est dans la chambre d'amis, sur votre droite. Allez voir. »
Puis, revenant à son premier commandement.
« Si j'avais pas embarqué autant de fringues, je serais déjà plus là. »
Hodges en doute. Il pense qu'elle se serait évanouie dans l'ascenseur.